Et on va lire donc 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alors c'est intéressant de voir comment Paul conclut sa dernière lettre aux Corinthiens et cette idée de au reste, frères. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Voilà, je vous ai dit plein de choses, je vous ai enseigné, je vous ai corrigé, je vous ai averti, je vous ai montré le cœur de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez vivre, hein? Et pour nous, c'est maintenant qu'on a entendu l'Évangile, qu'on connaît l'amour de Dieu, qu'on a été transporté dans le royaume du Fils de son amour, dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Qu'on est pardonné, qu'on est prédestiné, qu'on est appelé, justifié, glorifié dans Romains 8, 29 et 30. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire de la grâce, de la vie de Christ qui m'a été offerte? Parce que nous croyons et nous prêchons l'œuvre accomplie. Voilà, tout est accompli, mais ça veut dire est-ce qu'on n'a plus rien à faire? Est-ce que maintenant, tout est fait, donc on attend que ça se passe? Ou est-ce qu'on a encore des choses à faire, des décisions à prendre? Et on va parler de ça en particulier, des décisions. Parce que s'il y a une chose que Dieu respecte, c'est notre libre arbitre. Et chaque jour, on a des décisions à prendre. Chaque jour, nous prenons des décisions. Soit nous les prenons avec des raisonnements naturels, terrestres, humains, ou soit nous les prenons... Avec l'aide de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le secours du Saint-Esprit. Donc c'est les deux façons que nous avons, deux façons de vivre, soit dans la chair, soit dans l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc on se retrouve là avec cette lutte où on a du mal. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je vais choisir? Comment je vais vivre ma vie maintenant? Et bien sûr, Dieu nous propose d'être conduit par le Saint-Esprit. Bien évidemment, on sait qu'on a toujours encore, bien qu'elle ait été crucifiée, mais elle est toujours quand même là, hein, cette vieille nature. Elle est toujours attachée. On est attaché à la poussière. Et on a cette tendance humaine, naturelle, tous, de glisser, enfin sans effort, c'est comme vous laisser un champ sans vous en occuper, et vous savez ce qui va se passer, il va pousser des mauvaises herbes. Il va pousser des tomates, il va pas pousser des concombres, il va pousser des mauvaises herbes. c'est comme ça, c'est le péché, et la chute, les conséquences de la chute, hein, de ce monde. Dans Romains 8, on sait qu'il a été, il est soumis à la vanité, et donc on est un peu comme on peut malheureusement, naturellement, si on n'est pas vivifié par l'esprit, si on n'est pas rempli de la pensée de Dieu, on peut facilement faire comme les Juifs à la sortie d'Égypte, qui voulaient retourner en Égypte, hein, et qui pensaient à leurs poissons en Égypte, en Nombre 11:5. Ça leur coûtait rien. Ils avaient des concombres, ils avaient des melons, ils avaient des poireaux, ils avaient des oignons, ils avaient des os, ils avaient tout ça, hein, tout ce qu'on peut trouver. Et ça leur coûtait rien. Mais en même temps, ils ont peut-être oublié qu'ils gémissaient à cette époque-là aussi, sous la dureté de l'esclavage. Et le psalmiste aussi, en psaume 119, 25, le rappelle, on est attaché à la poussière. Mais c'est pas juste un fatalisme, c'est qu'on a une solution. Il conclut « Rends-moi la vie selon ta parole ». Et c'est ce dont on a besoin, en fait. C'est la parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu. Et à travers ça, on va le voir. Donc, maintenant que nous avons tout reçu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à venir à ce trône de grâce? Est-ce qu'on réalise que on a des bonnes intentions, mais quelquefois on est limité, hein, et qu'en fait, sans lui, on ne peut rien faire? Est-ce qu'on prend conscience de qu'on a besoin de lui, et que comment on va tenir ferme dans la foi, dans celui en qui nous avons cru? Ça, c'est la question. Persévérer dans la foi. Parce que En fait, ma réflexion, ma méditation, c'est de voir comment, dans le monde dans lequel nous vivons, j'avance un peu sur mes notes, mais dans lequel, pour que vous compreniez où je veux aller aussi, on vit dans un monde qui est très émotionnel, qui est très... Alors, c'est étonnant, parce qu'en même temps, on se dit scientifique, rationnel, tout réaliste, mais... Malheureusement, l'homme tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans le monde et autour de nous, les décisions sont souvent prises sous le coup de l'émotion. Et ça, c'est un petit peu le piège dans lequel on peut glisser facilement. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans ce christianisme où on va essayer, naturellement de trouver en Dieu et dans les voies de Dieu et dans la vie chrétienne ce qu'on savait trouver naturellement dans ce monde-là. Trouver quelque chose qui va satisfaire, qui va émoustiller. Et on cherche la présence de Dieu, on cherche les émotions, on cherche le sensationnel, on cherche une révélation mystique, on cherche... Et quelque part, on quitte un petit peu le terrain de la foi. Parce que... Si on est honnête, on va être, même si on a on a un désir de marcher avec le Seigneur, on sera forcément confronté à des échecs, à des déceptions aussi. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu, les voies de Dieu. Il y a une incompréhension. On a toujours des faiblesses aussi, peut-être qu'on aurait tellement aimé, comme l'apôtre Paul, qui aurait voulu que cette écharde dans sa chair, alors peut-être ça peut être physique, c'était peut-être une maladie avec ses yeux, c'était peut-être apparemment aussi peut-être Dieu qui permettait qu'un démon, ou en tout cas le garde humble, et le garde, pour pas s'enorgueillir de toutes les révélations qu'il avait reçues. Parce qu'en réalité, la foi, et c'est pour mettre le contraste entre la façon de fonctionner de manière émotionnelle et aussi notre appel à marcher par la foi. Et c'est deux choses qui s'opposent. Dans les décisions qu'on doit prendre, est-ce qu'on prend une décision basée sur mes émotions, sur ce qui me plaît, sur ce qui me fait plaisir, sur ce que j'ai envie, sur ce qui peut satisfaire? Et aussi, on est dans l'immédiateté aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prend une décision, il faut que tout de suite, on en voit le bénéfice, tout de suite, on en voit on est tout de suite un retour sur investissement. C'est-à-dire que voilà, on est en fait un petit peu addict aux émotions. C'est un peu une addiction à la dopamine. On a besoin de cette hormone un peu du bonheur où il nous faut tout le temps. Parce que le monde dans lequel nous vivons fonctionne comme ça. Juste l'exemple, on était dans le train tout à l'heure pour venir. Patricia me donnait le témoignage d'une maman avec son petit garçon qui avait son casque et son écran vidéo sur lequel il a à un moment joué et regardé quelque chose. Et presque elle le nourrissait, elle lui donnait la béquille parce qu'il était focalisé sur son écran. Et de mon côté, j'étais aussi, parce qu'on est monté, on était séparés, j'ai pris la place de Sophia pour qu'elle soit avec Patricia. Et j'étais dans un autre wagon, il y avait une famille, une dame avec 4 ou 5 enfants. Et chacun avec son écran. Alors, il était impeccable, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de dispute, pas de cri, pas de rien du tout. Mais tout le long, les 3 heures qu'on était dans le train, chacun, ils sont peut-être un peu arrêtés pour manger et encore. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on fait le constat par rapport à notre jeunesse de cette addiction des écrans. Et même nous, on s'en rend compte aujourd'hui avec un téléphone, le temps qu'on peut y passer dessus, et des choses dont on a besoin, je veux dire, communiquer, envoyer des messages, regarder des informations, trouver sa direction pour venir jusqu'à... On a dû utiliser ces écrans, mais on devient vite. Et quelque part, c'est une façon de... Il y a une forme d'addiction dans ces écrans. Alors, j'espère que tout ça, ça va prendre un peu de... Ça va venir, vous allez voir. Parce qu'on pourrait se dire, en tant que chrétien, si c'est par la foi, alors les émotions ne comptent pas dans la vie chrétienne. C'est Il faut prendre des décisions, c'est par la foi, on n'a pas besoin de sentir les émotions. Ça, c'est pour. Et en réalité, là, dans le texte dont on va parler, il y a quand même. Il parle de la joie, il parle de la consolation, il parle d'avoir le même sentiment, la même pensée, de la paix. Tout ça, ce sont des émotions. La vie chrétienne est faite d'émotions. Et on est des êtres émotionnels. Dieu nous a créés avec des émotions. Et on a besoin de les expérimenter, mais de les expérimenter avec le Seigneur. On a besoin de le vivre dans la communion du Saint-Esprit. Donc sans la foi, bien sûr, on sait qu'il est impossible de plaire à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'attend pas, parce que dans notre façon de penser naturelle, c'est que nous, s'il faut performer, il faut réussir, il faut tout ce que Dieu demande, c'est qu'on continue à lui faire confiance. Tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'on continue à le connaître. Et ça, c'est la clé, en réalité. C'est cette relation avec lui. Et il a commencé en nous une œuvre, et il a l'intention de la poursuivre. On connaît ce verset dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Hein, ce qu'il a commencé en nous, ben, il sera fidèle de le poursuivre. Et c'est ce qu'il fait. Et quelque part, il attend aussi, enfin, il travaille avec notre volonté. Puisqu'il respecte, il nous a donné ce libre arbitre, il respecte notre réponse. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va lui faire confiance? Est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce qu'on va simplement suivre ce qu'il nous conseille? Et en fait, écouter à la manière de Dieu, et c'est ce que vous faites, et c'est ce que vous continuez de faire, c'est ce qu'on continue de faire. C'est de se soumettre à ses enseignements, à ses instructions, pour pouvoir pratiquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, et j'arrive à ce que je veux essayer de communiquer, aujourd'hui, pour être simplement un peu radical, mais je pense honnête, l'homme, ce qu'il veut, c'est se sentir bien. Ce qu'il veut, c'est avoir la paix. Ce qu'il veut, c'est avoir la joie. Ce qu'il veut, c'est sentir l'amour. Et la chair a des moyens pour essayer d'avoir de trouver ces sentiments-là, de rechercher ces sentiments-là. D'accord ? Pour les jeunes, avec les hormones, l'attirance sexuelle, alors aujourd'hui, bien sûr, il y a une grande confusion, beaucoup de choses qui sont dévoyées, mais il y a une puissance là qui nous fait croire que ben, ça y est, on va pouvoir expérimenter ça. Mais si vous voulez, c'est une recherche, c'est des décisions émotionnelles. Ce ne sont pas des décisions par la foi, dans la vérité et dans ce que Dieu nous dit. Et donc les gens courent après, essayent de nourrir émotionnellement leurs besoins émotionnels. Mais si vous voulez, c'est biaisé. Et le diable fait tourner les gens en rond. En fait, il n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de ses armées contre ces chrétiens-là, parce que c'est émotionnellement qu'ils sont prisonniers. Et on se retrouve facilement dans une attitude de plainte, d'incompréhension, de mécontentement, de dire « Où est Dieu ? Mais qu'est-ce que Dieu fait ? Mais pourquoi ceci ? Mais pourquoi cela ?» Parce qu'on n'applique pas simplement ce que Dieu nous propose. Et ici, c'est ce qu'on va voir. Dieu nous propose... On va voir ce que nous dit Paul ici, dans cette conclusion. Il nous dit, soyez dans la joie. J'aimerais bien. Soyez dans la joie. Alors, c'est ce qu'on recherche. D'ailleurs, c'est le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le temps du verbe, le verbe c'est le verbe kéro, c'est se réjouir. Et le temps du verbe c'est un impératif, c'est un présent, actif, impératif. Donc ça veut dire que c'est un commandement, c'est à moi de l'agir. Et c'est le présent, ça veut dire que c'est une action que je dois continuellement. Et nous on va dire que... Comment est-ce que Dieu peut me demander une chose pareille? Il ne sait pas que c'est difficile la vie sur la terre. Il ne sait pas ce que c'est que de vivre avec moi tous les jours. Il ne sait pas que ce monde, il est méchant et plein d'embûches. Comment c'est possible avec les circonstances que je traverse? Comment c'est possible avec peut-être les problèmes relationnels que j'ai avec un membre de ma famille, quelqu'un au travail, même frère dans l'église, avec peut-être moi-même? Et puis, dans ce monde où on est très dépendant du matériel, mais il y a tellement de choses dont j'ai besoin. Une plus grosse voiture, une voiture déjà, un appartement, un grand local pour l'église, enfin, il y a tellement de... Voilà, ça, quand j'aurai tout ça... Et en fait, c'est, vous voyez la différence? C'est que quand on aura tout ça, effectivement, on pourrait se dire là... Mais c'est une joie qui est très dépendante des circonstances, qui est très dépendante sans... Et là, on n'a même pas parlé des soucis, des détails, de la vie. Et comment est-ce que je vais me réjouir? En réalité, cette joie, elle ne vient pas de l'extérieur. Et ça, le monde ne peut pas la connaître. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous qui avons le Saint-Esprit, que nous qui sommes nés de nouveau, qui pouvons découvrir, expérimenter, vivre cette joie. Et si Dieu nous demande impérativement un commandement de le vivre, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Alors comment? Parce que là, tous les problèmes qui s'opposent à cette joie, et c'est la réalité du monde, on ne vit pas dans, on verra, quand il parle de consoler et ou de s'encourager, c'est pas un monde de bisounours dans lequel Dieu nous a appelés. Voilà, on est dans ce monde. Il y a une réalité, il y a des difficultés, il y a des soucis, il y a des frustrations, il y a des difficultés. Maintenant je suis chrétien, mais alors voilà, tout va bien. Non, j'ai des problèmes avec moi, j'ai des problèmes avec les autres, j'ai des problèmes dans ce monde. Voilà, c'est la réalité. Mais ça n'empêche pas que je peux me réjouir. Puisque Dieu m'y invite, et on va voir comment. C'est que, au lieu de regarder de manière horizontale, à nos vies, à nos situations, à nos circonstances, avec une analyse simplement rationnelle qui nous est proposée dans cette société, selon les critères et jugements du monde qui nous entoure, Dieu nous dit non, mais lève les yeux. Regarde. Regarde à qui je suis et regarde à ce que j'ai fait. Et c'est ça, la différence entre des décisions qui seront simplement émotionnelles, qui cherchent à trouver des solutions à court terme pour enlever la crainte, l'angoisse, toutes les conséquences du péché, de la chute. Nous, Dieu nous propose de regarder en haut. Et j'aime cette histoire dans 2 Chroniques 20, peut-être vous connaissez cette histoire avec Josaphat, où ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont aucune solution. Et Dieu permet quelquefois dans nos vies qu'on se retrouve dans des situations où on n'a pas de solution. Et la seule solution qui nous reste... Et c'est ce qu'il dit. Il dit, 2 Chroniques 20, 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et quelquefois, on peut être dans cette situation. On a on est peut-être oppressé par des situations, des circonstances, des problèmes, de la vie, et on ne sait pas que faire. Mais il y a une chose qu'on peut faire. C'est placer nos yeux sur Jésus-Christ. C'est fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on, si on commence à regarder à Jésus, si on commence à méditer sur sa personne, sur son œuvre, là, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ce que Dieu nous propose. C'est ce à quoi Dieu nous invite. Après, vous avez tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la réalité, elle est là. Je vais regarder à Jésus. Parce que moi, j'ai pas la solution. Moi, je n'ai pas les moyens. Voilà, c'est lui. Et en réalité, quand on commence à faire ça, les sujets de se réjouir ne manquent pas. Mais on ne les voit pas, parce qu'on est omnibulé par peut-être mon manque, ma crainte, ma faiblesse. Mais les sujets de se réjouir ne manquent pas. Son amour. Alors, oui, mais je ne le sens pas. Non, mais on ne te demande pas si tu sens ou sens pas. Là, on n'est pas en train de chercher l'émotion, là. On est en train de regarder à Jésus et de penser avec Jésus. Et de méditer sur la vérité. Pas sur C'est-à-dire que j'ai ma réalité, mais maintenant je m'élève, je laisse Dieu m'élever à la vérité. La vérité de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Parce que, en fait, son amour, Romains 8, 31, 39, cet amour qui, il n'y a rien qui pourra nous séparer de cet amour, hein. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, hein. Je veux dire, quand on pense à cette sécurité, quand on pense à cette valeur que nous avons, je suis aimé. Et au lieu d'essayer de sentir cet amour, juste je le confesse, juste je le médite, juste je le serre dans mon cœur, juste je l'élève dans mes situations. Hein, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Parce que, en fait, c'est ça, l'ennemi veut nous garder. Reste en bas, regarde tes problèmes, regarde tes faiblesses. Non, je veux regarder à Jésus-Christ. Si on médite sur notre salut, sur le salut que Jésus-Christ nous a offert, est-ce qu'il n'y a pas sujet de se réjouir? Et Paul le rappelle en reprenant le psaume 32 de David. Il dit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » C'est Romains chapitre 4, versets 6 à 8. « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Ce n'est pas un sujet de se réjouir, ça. Oui, je suis encore faible. Oui, j'ai peut-être encore échoué. Oui, peut-être que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Oui, il y a encore peut-être des péchés dans ma vie. Mais j'ai été pardonné. Dieu ne me regarde plus et ce n'est plus mon identité, ce n'est plus ma valeur, ce n'est plus... Voilà, je ne suis plus mon péché. Hein? Quand on méditons sur, par exemple, le projet qu'il a pour nous, qu'est-ce qui nous est réservé? Quel est notre avenir? Pourquoi? Je dis ça parce que très souvent, on est dans la crainte de l'avenir. N'est-ce pas? Comment ça va tourner? Comment ça va finir? Comment je vais m'en sortir? Et quand on pense à la prédestination, Romains 8, 29, prédestiné à être à la ressemblance de Jésus-Christ, ça c'est notre avenir. Et tu dis, mais comment c'est possible, vu où j'en suis là? Mais c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a promis qu'il allait faire. Maintenant, on peut penser aussi à ses provisions, à sa fidélité dans les épreuves. Parce que oui, les épreuves sont là, n'est-ce pas? Mais on sait qu'il est fidèle et on sait qu'il a une provision. On sait que, oui, peut-être le malheur atteint souvent le juste, dans Psaume 34, verset 20, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et quand on médite sur ça, on sait que quelquefois, voilà, mais on sait que Dieu a... Alors, des fois, le processus n'est pas toujours évident, mais par la foi, on sait qu'il va nous relever. Comment il va faire? Comment il va nous sortir de cette situation? Ça lui appartient. Et on sait en 1 Corinthiens 10, 13 qu'avec l'épreuve, il a la provision. Il ne nous laisse pas sans. Et quand on médite à toutes ces choses-là, ben, on peut se dire, mais je peux me réjouir. Et c'est très important, cette méditation, parce que c'est elle qui va nous permettre de prendre la bonne attitude de ce que Dieu propose ici. Parce que sinon, on peut gémir, on peut se plaindre, et on peut dire, oui, mais regarde mes émotions, c'est pas terrible. Ben oui, mais parce qu'on ne médite pas sur la vérité, on ne médite pas sur l'œuvre accomplie, on ne médite pas sur ce que Christ a fait. Et puis, quand on pense à l'avenir, la Bible, j'aime ce verset dans Romains chapitre 4, verset 17, il parle d'Abraham, il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Nous, on est limité dans le temps, on ne sait pas encore, mais Dieu qui est à l'extérieur, il sait les choses. Et nous, on lui fait confiance. Dieu, si Dieu dit qu'il nous a justifiés, pardonnés, eh bien, on l'accepte. Et ça ne veut pas dire qu'on peut continuer dans le péché, loin de là. Parce que quand on a cette méditation-là, quand on a cette joie dans notre cœur, parce qu'on s'attache à qui est Jésus, à sa personne, à son œuvre et à son plan pour notre vie, à son avenir, à ce qu'il déclare, eh bien, je peux vous dire, ça va nous élever. Et ça va nous... Cette joie-là, c'est pas une contrefaçon, c'est pas on se pompe, on se gonfle, on se remplit. Cette joie-là va commencer à saisir nos cœurs. Parce qu'on dit, mais qui suis-je pour autant de grâce? Parce que il faut le reconnaître, on sait les soucis de la vie, les détails, même les richesses de ce monde sont un piège et étouffent cette semence, hein, en Matthieu chapitre 13. Et le danger, c'est que avec le temps dans la vie chrétienne, on pourrait avoir tendance à faire un petit compromis peut-être, hein, pour essayer de trouver des moyens de satisfaire nos émotions au lieu de prendre ce que Dieu nous propose, de nous réjouir. Et Romains 12, 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». Ça veut dire qu'il y a des choses, parce que si on, mes amis, si on espère en Jésus-Christ simplement pour cette vie ici-bas, dans Romains 15, dans 1 Corinthiens 15, 19, on est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que c'est pas que la vie chrétienne, c'est pas juste pour être riche, confortable, tout réussir. C'est pas l'évangile de prospérité. La vie chrétienne, c'est une communion avec Dieu. C'est une richesse qui n'est pas de cette terre, qui n'est pas de ce que ce monde propose. Si on est trop fort en nous-mêmes, n'est-ce pas, ça peut être un danger. Parce que quand on est trop fort en nous-mêmes, peut-être on va s'appuyer sur nous-mêmes. Alors que lorsqu'on est peut-être amené au bout de nous-mêmes, c'est sur Christ qu'on s'appuie seulement. Et cette crise, elle va venir, cette joie, elle va venir dans notre cœur. Elle va nous aider à vivre, à supporter, à accepter, à embrasser même la réalité qui est peut-être pas simple. Mais parce qu'on a cette méditation, parce qu'on a cette communion avec Dieu, parce qu'on a cette espérance, j'aimerais vous dire qu'elle va éclairer notre vie à nous, mais aussi éclairer la vie autour de nous. Parce que quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, quelqu'un qui est dans l'épreuve, mais qui arrive à se réjouir parce qu'il médite sur ce que Dieu fait, sur les promesses de Dieu, sur la fidélité de Dieu, sur le fait que Dieu va prendre soin, va agir en sa faveur, eh bien, il va être une démonstration. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est l'espérance, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on devient quelque part une démonstration. Parce qu'on a choisi de regarder en haut. Et cette joie, elle n'est pas une contrefaçon, elle est vraie, elle est véritable. Elle est la joie de la communion avec Dieu. Donc, c'est possible de se réjouir. C'est simplement une question de décision, d'attitude, de foi. Et c'est le travail de Dieu dans nos vies, à travers voilà, le brisement de la vie et de nous faire grandir dans l'humilité, dans la dépendance avec lui. Ensuite, donc ça c'était soyez dans la joie, réjouissez-vous. On peut penser aussi à Philippiens chapitre 4, hein, ou même Philippiens chapitre 3 qui dit réjouissez-vous. Verset 1, Philippiens 3, 1, de la même manière, il dit au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Hein, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me réjouir dans le Seigneur. Par la foi. Je vais me réjouir dans sa parole, dans le corps de Christ, dans les dons que Dieu m'a donnés. Je vais me réjouir dans la vie à laquelle Dieu m'invite. Alors, deuxième point ici, c'est perfectionnez-vous. Le temps aussi, c'est un présent. C'est un impératif. Mais quand on le lit comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que nous fassions par nous-mêmes. Mais dans le temps grec, le verbe grec est au passif, c'est-à-dire que c'est une action de la part de Dieu. C'est pas moi qui peux me changer, c'est pas moi qui vais m'arranger, c'est le travail de Dieu, c'est une action que je dois accepter de la part de Dieu. D'accord ? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On voit ça dans le livre des Thessaloniciens. Et c'est lui-même qui va le faire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Parce que moi je ne peux pas me changer, moi je ne peux pas m'arranger. Et si c'était le cas, on n'aurait pas eu besoin du message de la grâce, on n'aurait pas eu besoin du sacrifice de Christ. Par la loi, on serait arrivé. On a les règles, il y a juste qu'à le faire. D'accord? Donc il ne s'agit pas de travailler nous-mêmes, mais d'accepter le travail de perfectionnement de Dieu. Ça veut dire d'accepter que je ne suis pas encore parfait. Puisque j'ai besoin que Dieu me fasse grandir. C'est le désir de n'importe quel parent, n'est-ce pas? Vous imaginez, qu'est-ce qu'il désire? Ben, que son enfant grandisse, acquiert des compétences, acquiert de la connaissance, grandisse dans la relation, grandisse dans la confiance, s'épanouisse, développe ses dons, ses talents, ses capacités. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Et ce sont des dons et des capacités spirituelles que Dieu veut développer, évidemment, en nous. Ce que Dieu désire, c'est qu'on grandisse. C'est Paul qui dit ça en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, au reste, frère, puisque, encore, c'est la même expression, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous en prions. Nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc c'est cette idée. Voilà, on grandit. On connaît plus le Seigneur. On est peut-être de moins en moins attaché à cette terre, de plus en plus attaché au ciel, à Jésus, aux autres aussi. Hein, on a l'amour de Dieu pour les autres. Donc on voit que c'est l'œuvre de Dieu dans 1 Pierre 5:10. C'est le Dieu de toute grâce. Et il dit, il vous perfectionnera lui-même. Lui-même. Il va vous affermir, vous fortifier, vous rendre inébranlable. C'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de la parole. Et on va le voir que ça se fait aussi à travers la parole, ce processus. Alors, quelquefois, bien sûr, il est douloureux. Les épreuves, on est peut-être attristé dans 1 Pierre 1, 6 et 7. Mais ces épreuves-là, c'est une façon pour nous de nous affermir, de nous affiner, d'enlever les scories, de montrer, de faire grandir Christ en nous. Parce que c'est ça le projet de Dieu, c'est de faire grandir Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à travers les difficultés peut-être qu'on rencontrera dans la vie, j'aime ce verset d'un Pierre 4:1, il dit « Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et c'est vrai que ce brisement, ce travail de Dieu qui nous amène sur nos genoux, qui nous amène à méditer sur la personne et sur l'œuvre de Christ, eh bien ça nous on est de plus en plus déraciné de cette vie d'ici-bas pour grandir dans la vie d'en haut. Comment ça, l'importance aussi de réaliser, c'est que Dieu fait ça avec une patience et une douceur. On n'est pas marche ou crève. La patience de Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 4. Juste de réaliser comment est-ce que Dieu, la bonté de Dieu et la patience de Dieu, c'est ça qui nous pousse à un moment donné à dire, OK, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, j'accepte de grandir dans ce domaine. J'accepte que tu fasses une œuvre. Donc, c'est ce qui nous pousse, n'est-ce pas, à lui faire confiance. C'est ce qui nous pousse à dire, OK, Seigneur, ce défi, ce domaine dans ma vie qu'on essaye de cacher, vous savez, ce domaine-là, je ne veux pas que tu t'en occupes. Hein. Laisse-moi rester avec ce domaine-là, c'est une blessure, c'est mon passé, c'est mon histoire, c'est une partie de mon identité. Et Dieu dit, non, mais là, je vais venir ranger ça. Je vais venir redresser, parce que il est dit ceci dans Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous imaginez, si Dieu demande que nous fassions ça les uns vis-à-vis des autres, à combien plus forte raison lui-même s'applique ce qu'il nous demande. Donc quand il vient nous perfectionner, nous corriger, nous redresser, parce qu'on en a besoin, c'est jamais pour nous condamner. C'est jamais pour pour nous blesser, mais c'est pour qu'on réalise que oui, on veut ce perfectionnement. Peut-être aussi une chose qui peut faire peur, c'est que quand on avance avec le Seigneur, on va découvrir peut-être des ténèbres qu'on ne soupçonnait pas en nous. Et presque ça fait peur. On se dit, j'aurais préféré ne pas savoir. Et ce que vous savez aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que c'est en réalité. Mais n'ayons pas peur, puisqu'il est en train de nous perfectionner. Et surtout, n'ayons pas peur, parce que c'est déjà accompli. C'est juste qu'on est dans ce processus-là, où il nous demande juste, fais-moi confiance. C'est encore la foi. c'est encore la foi d'accepter d'être... Parce que si on cache, et c'est ce qu'on aurait tendance à faire, quand on a fait une bêtise, on essaye de le cacher. On essaye de passer, de dire ça va passer. Hein, mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dans Proverbe 28, 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos perfectionnements. C'est qu'on confesse et qu'on soit plus prisonnier de cette faiblesse. Qu'on soit plus prisonnier de cet handicap. Qu'on puisse rentrer, parce que l'objectif de tout ça, c'est que Dieu est en train de nous rendre complets, de nous rendre capables, de nous et c'est ce que dit l'auteur du livre des Hébreux au chapitre 13. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables. Et c'est le même mot, katartizo, c'est le même mot. Il vous perfectionne, il vous rend capable, il vous équipe, il nous fait grandir, il nous utilise. Vous imaginez la grâce de pouvoir être un outil dans la main de Dieu, de pouvoir être quelqu'un qui va peut-être être utilisé, et c'est ça qui est extraordinaire, pour redresser un frère, une sœur, avec douceur, pas avec le jugement, pas avec la critique, pas avec l'esprit de domination, mais avec l'esprit de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et combien on a besoin d'avoir ce ministère les uns envers les autres? Combien on a besoin de s'encourager à s'élever, de grandir en Jésus? Au lieu de le monde aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la philosophie du monde, c'est qu'on s'abaisse. On devient le paganisme abaisse la valeur des êtres humains. Ça devient des animaux, juste. Qui veulent assouvir leurs passions, leurs désirs, leurs émotions. Il n'y a aucun contrôle, aucune maîtrise. Alors que Dieu, c'est lui qui va nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc il y a un plan pour notre vie, n'est-ce pas? Il y a un plan pour notre vie. C'est peut-être l'occasion aussi de se laisser enseigner. Hein, de Timothée 3,16, la parole de Dieu. L'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Catharsis-le encore. Il est en train de nous faire grandir. À la ressemblance, pourquoi? Pour les œuvres préparées d'avance, en Éphésiens 2.10. Donc, voilà, on voit qu'on peut se réjouir. Ça, c'est ce que nous choisissons de faire. Ça, c'est notre décision, par la foi, de méditer sur Dieu. On peut accepter que Dieu nous perfectionne, nous fasse grandir, nous corrige, nous instruise, nous donne plus de compréhension, de confiance en lui, et qu'on puisse relever les défis, qu'on puisse rentrer dans des œuvres préparées. Pas qu'on devienne passif, mais quand tu grandis, tu veux quoi? Que ton enfant, il puisse faire des choses, il puisse être chef d'entreprise, il puisse monter des projets, il puisse... aujourd'hui, il y a plus ça, mais à une époque, découvrir le monde, découvrir des pays qu'on ne connaît pas, être un aventurier, hein, un Livingstone. Donc, troisième point, consolez-vous. Consolez-vous, allez, j'accélère un peu. C'est aussi traduit par exemple dans la Semeur, encouragez-vous mutuellement. Soyez, encouragez-vous mutuellement. On a besoin de s'encourager, on a besoin de cette consolation. La vie est compliquée. C'est pas compliqué, la vie est compliquée. Et le mot ici en grec, c'est intéressant, c'est le mot parakaleo. C'est appeler à, convoquer, encourager, exhorter, instruire, enseigner. Et pour moi, ça m'a fait tout de suite penser à quelqu'un qui est là pour ça, que Dieu nous a donné parce qu'il savait qu'on en avait besoin. Et là encore, le temps, c'est un présent. C'est un impératif. Mais ce n'est pas un actif. C'est là encore un passif. On ne le voit pas quand on le lit dans le français. Mais c'est l'œuvre de Dieu envers nous. L'œuvre de Dieu, on va le voir à travers la parole, l'œuvre de Dieu à travers le corps de Christ, l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que Le parakaléo, ça m'a fait tout de suite penser au parakletos, au Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous faire grandir, pour nous instruire. C'est lui qui va nous donner l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Ne cherchons pas, c'est la révélation. Et on a besoin du Saint-Esprit. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pas parce que c'est parce qu'on en a besoin. Sinon, on aurait pu le faire sans lui. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Et aussi, et le Saint-Esprit va œuvrer dans... Quel est le travail du Saint-Esprit ? C'est de nous révéler Christ, de nous révéler la parole de Dieu, d'apporter une nourriture à nos âmes. Romains chapitre 15, verset 4, il est dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Il va prendre les Écritures, il va prendre les promesses de Dieu, il va prendre l'œuvre décrite de Jésus-Christ et il va nous encourager, il va nous consoler, il va nous fortifier. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui est appelé à nos côtés, n'est-ce pas ? Et qui va intercéder aussi pour nous. Il est le parakletos, c'est aussi le même mot qui est utilisé dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, lorsqu'il est parlé de Jésus, notre avocat. Il est le parakletos, il est celui qui nous défend, il est celui qui vient à nos côtés. Il n'est pas là, le Seigneur n'est pas là pour nous enfoncer, il est là pour nous relever sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'on échoue beaucoup, souvent. Parce qu'on est attiré, voilà, et qu'on a besoin de quoi ? D'encouragement, d'édification. Et c'est ce que le corps de Christ doit faire. C'est ce que vous faites les uns les autres. C'est ce que nous faisons les uns les autres, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est pas une grande source de bénédiction que de pouvoir être une source d'encouragement pour un frère qui peut-être passe un moment difficile et Dieu par le Saint-Esprit nous donne de l'aimer, nous donne de l'encourager, nous donne de le fortifier dans sa foi. Tout ça pour dire que ces émotions qu'on vit, qu'on expérimente, ce sont le résultat de décisions où on a laissé Dieu prendre, on a mis notre confiance en Dieu, pas on a recherché par nous-mêmes des choses. On a dit, ok Seigneur, on va faire, voilà, une vie d'église par exemple. C'est un coût, n'est-ce pas ? Parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est des voyages, voilà, on vient de là, on se retrouve, on vit des choses ensemble. Et on pourrait dire, mais on a plein de choses d'autres à faire. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Si ce n'est essayer par nous-mêmes de trouver les moyens de trouver la paix, la joie, l'amour, alors qu'on l'a là. Vous voyez, on cherche, l'homme cherche sans Dieu ce que Dieu nous offre quand on l'écoute, quand on lui obéit, quand on lui fait confiance, quand on accepte de se soumettre. Pas de manière, c'est pas une soumission forcée, c'est une soumission choisie, comme l'esclave, vous savez, dans quel livre ça ? Le livre, je sais plus lequel, qui acceptait de. Parce qu'il aimait son maître, qui acceptait de se faire percer l'oreille. J'ai oublié le livre, si c'est le livre des juges. Bon, en tout cas. Il choisissait, il pouvait avoir, il avait payé son dû, donc il pouvait partir libre. Mais parce qu'il aimait son maître, parce qu'il avait compris qu'il pouvait. Est-ce qu'on n'a pas compris qu'on est les pires maîtres ? Si c'est nous le maître, vous ne pensez pas que le monde va mal parce qu'il a choisi d'être son propre maître ? Mais on n'est pas des bons maîtres pour nous-mêmes. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Nous, on va vouloir consommer, prendre, alors que la vie se trouve quand on accepte de donner et de perdre. Et ça, c'est que par le Saint-Esprit qu'on peut, et la vie de Dieu, qu'on peut vivre ces choses-là. Et ce que l'homme cherche à prendre, Dieu lui offre, si simplement il le suit, si simplement il écoute, si simplement il commence à penser avec Dieu, méditer avec Dieu, et puis accepter d'être enseigné, corrigé, accepter d'être relevé, consolé par le corps de Christ, par le Saint-Esprit. Et puis ensuite, il arrive à cette idée d'avoir la même pensée, le même sentiment. Et là, le mot grec, c'est le mot phronéo. C'est la pensée. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ça on le sait. C'est le mot qui est utilisé dans Matthieu 16, 23, quand Pierre, il reprend le Seigneur pour lui dire qu'il n'ira pas à la croix, et il lui dit, mais tes pensées sont des pensées des hommes. Et là, d'avoir la même pensée. Alors on est des clones, on pense tous pareil. C'est de quelle pensée? C'est la pensée de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons reçu, n'est-ce pas? En 1 Corinthiens chapitre 2, nous avons la pensée de Christ, on l'a reçue, la pensée de Christ, par la parole de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et donc, on peut penser avec Dieu. Et c'est ça tout l'art, toute la beauté. Mais ça veut dire quoi si je pense avec Dieu? C'est que j'abandonne ma propre pensée. J'abandonne mon propre jugement, mon propre « moi, je pense que ». Combien de divisions dans les églises sont arrivées parce que les gens n'ont pas accepté la pensée de la croix? Ça, c'est ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, on pense quoi? Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est de connaître Christ. C'est de grandir en Christ. C'est pas de chercher mon intérêt. C'est pas de chercher à me montrer. C'est pas de chercher à réussir. Ce que je veux, c'est quoi? C'est penser comme Christ pense. Parce que mes pensées, elles sont opposées aux pensées de Dieu. Mes pensées, dans Philippiens 3, 19, et ce mot est souvent utilisé, il est dit, il parle de ceux qui ont Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La pensée, d'avoir la même pensée, c'est quoi? C'est Colossiens chapitre 3, verset 2, c'est de s'affectionner, c'est de penser aux choses d'en haut. Et cette pensée, d'accepter d'avoir cette pensée, la pensée de Dieu, c'est à l'origine de l'humilité, en fait. C'est de ne pas voir, et c'est ce qu'il dit en Romains 12, 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis donc à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Et comment est-ce qu'on pense vis-à-vis de nous? Si c'est Christ qui a la... Si je pense la pensée de Christ, je n'ai pas besoin de m'élever, je suis en Christ, je suis sécurisé, je n'ai pas besoin de dominer les autres, n'est-ce pas? Je peux me soumettre. Et en fait, c'est ça. D'avoir ce sentiment, cette pensée, Philippiens 2, 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, une même pensée, un même amour, c'est ce que Dieu nous demande. Et après, ça parle de quoi derrière? C'est la kénosis, c'est le dépouillement de Jésus-Christ. Et c'est ça la croix, c'est on renonce à nous-mêmes, on renonce à mes pensées, on renonce à mon ego. Et là, on élève Jésus-Christ. On choisit de penser comme Christ pense. Sur nous, sur les autres. Et ça change nos relations, n'est-ce pas? L'unité va se trouver où? À la croix. C'est là qu'il y a le rendez-vous. C'est là qu'on se retrouve. C'est là que chacun d'entre nous, le même prix a été payé pour chacun d'entre nous. Le sang de Jésus-Christ. Et j'aime ce verset, et on arrive bientôt à la fin. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous dites ça à quelqu'un qui connaît pas le cœur de Dieu, qui connaît pas la vie chrétienne, qui... Mais attends, vous êtes fous, quoi. Se sacrifier? Renoncer à soi-même? Mais pourquoi? Mais parce qu'on a trouvé quelque chose de mieux. Mes pensées, elles sont très égocentriques, très limitées, très petites. La pensée de Dieu, elle est éternelle. La pensée de Dieu, elle est bénéfique. Elle est bonne, et pour moi, et pour les autres. La pensée de Dieu, elle fait qu'on est un corps. Et même si c'est pas une pensée unique, mais ce qu'on pense, c'est Christ. Ce qu'on veut, c'est Christ. C'est élever Christ ensemble. C'est connaître l'amour de Dieu. C'est expérimenter l'amour de Dieu. C'est partager l'amour de Dieu. Et bien sûr, c'est le nous, après, hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est notre pensée, c'est le travail de profond, là. Vous imaginez, quand on pense avec Dieu, et à travers les enseignements qu'on reçoit, à travers la vie qu'on vit, à travers la mise en pratique, parce que là, on est dans la mise en pratique, dans ce passage-là. C'est plus juste, oui, on a des belles théories, mais je continue à vivre dans la chair. Non, j'ai des belles théories, mais ces belles théories m'amènent où? À la croix. À la croix, c'est en fait, la croix, c'est l'endroit de la liberté. C'est l'endroit où on est affranchi. C'est l'endroit où on rencontre Jésus-Christ. Hein? Et donc, pour terminer, il dit, Alors là, le mot ayez un même sentiment, c'est des impératifs présents. Et là, c'est actif, c'est mon choix, c'est ma décision. C'est à moi. C'est à moi de prendre ma croix. C'est à moi d'accepter de renoncer à moi-même. Et la paix de Dieu, vivez en paix. Vivez en paix. Et cette paix-là, on va lire un texte, Philippiens chapitre 4, et je vais conclure. Philippiens chapitre 4. Il dit, est-ce que c'est pas une émotion essentielle, la paix? Est-ce que les gens sont... Quel prix ils sont prêts à payer pour avoir la paix? Beaucoup sont dans la crainte, dans l'angoisse, dans la peur. Ils achètent ça avec quoi? Avec des drogues? Avec, je sais pas, avec quoi? Avec s'évader à travers un monde virtuel? De plus en plus, pour essayer quoi? Pour essayer de trouver une forme de paix. Mais ils ne vivent pas. Ils vivent par procuration. Ils n'ont pas la... Ce n'est pas une paix... Ils n'ont pas la... Pourquoi? Et nous, la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'on a la paix avec Dieu. On a été justifiés. Romains chapitre 5, verset 1, on est enfant de Dieu. D'accord? La paix. Alors, maintenant, agissons comme des artisans de la paix. Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu nous a donné les moyens pour être des artisans de vivre en paix, autant que c'est possible. Hein, Paul le dira, tant que c'est dans nos moyens, on ne peut pas décider à la place des autres. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette décision, on cherche la paix. On élève l'œuvre de Jésus-Christ. Et face à toutes les situations, on a cette provision-là, de s'appuyer sur un Dieu. Et si on continue après, c'est encore dans les pensées, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et là, c'est la grande clé. C'est-à-dire que tout ce que Paul nous dit, maintenant, mais vivez-le, ça. Pensez avec moi. Pensez avec moi. Et le Dieu de paix sera avec vous. Bien sûr que la paix, on l'a reçue en Dieu. Mais est-ce qu'on la vit, cette paix? Et là, ce que je trouvais intéressant, dans cette exhortation de Paul qui conclut le livre des 2 Corinthiens, c'est qu'il nous donne, voilà, à travers ces 5 points-là, il nous donne de pouvoir vivre, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ces émotions-là qu'on désire plus que toute autre chose, eh bien, c'est le résultat d'une vie de foi dans ce que Dieu ce à quoi Dieu nous invite, de penser, de se laisser enseigner, de se laisser relever, consoler, de continuer à venir à ce trône de grâce, d'accepter de mourir à nos pensées. Et c'est beaucoup dans la pensée. D'accord? Et puis la paix, de vivre dans la paix. Cette paix, si je peux vivre dans la paix, c'est parce que j'ai la paix avec Dieu. D'accord? Parce que j'ai choisi, j'ai la paix avec Dieu et je veux expérimenter cette paix. Donc je m'arrêterai là pour ce soir et je vous remercie pour votre écoute. On a des choses extraordinaires à vivre. Quand simplement, on écoute ce que Dieu nous propose et qu'on laisse son œuvre se faire patiemment, dans la grâce, dans la douceur, et quelquefois dans les larmes. Mais ce n'est pas grave. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Donc en attendant, quand on découvre le Dieu d'amour et de paix qui est avec nous, qu'est-ce que vous voulez de plus? On est sur le chemin. D'accord? On est sur ce chemin-là et on veut continuer de rester sur ce chemin-là. C'est ça qui nous enthousiasme. Voilà. Dieu vous bénisse.